Jean, chapitre 13. Ce qui est intéressant à noter, c'est que nous sommes la veille de la crucifixion. Les chapitres 13 à 17 ouvrent ce long discours pendant le repas pascal. Alors, dans les évangiles, il y a souvent ces discours de Jésus, tels que le sermon sur la montagne, le discours sur le mont des Olives, et il y a plein d'autres. Mais celui-ci est le plus long. Donc, on va le prendre chapitre par chapitre, mais il faut savoir que ça n'était pas dit chapitre par chapitre. Donc, c'est bien, justement, si vous voulez avoir une bonne idée de ce que c'était, c'est de simplement le lire chez vous, chapitre verset 1 jusqu'à la fin de chapitre 17, cette longue prière. Et là, vous aurez une meilleure idée de comment ça a été parce que c'était une conversation. Mais si on allait le faire comme ça, on serait là jusqu'à très tard le soir. Donc, c'est pour ça qu'on va prendre comme ça. Alors, ce qui est aussi assez intéressant par rapport au discours pendant le repas pascal, c'est que dans l'évangile selon Jean, on ne voit pas le repas du Seigneur. C'est le seul évangile où ça ne paraît pas. Alors pourquoi? Il paraît, et nous allons voir, que le Saint-Esprit a voulu que l'accent soit mis sur autre chose, plutôt sur la relation que nous avons, que nous aurons, enfin, si mettons-nous à la place des disciples, qu'ils auront, quand Jésus sera glorifié, que le Saint-Esprit descend. Donc, quelque part, c'est très à propos parce que c'est la dernière heure. Et donc, il les prépare avant que ça n'arrive. Tout va changer, tout va basculer. Il faut dire aussi que dans leur esprit, Jésus est vraiment au sommet. Il vient d'entrer en Jérusalem en plein de gloire et de puissance. Il a aussi retourné tous les arguments des chefs religieux contre eux. Il a réussi vraiment à tous les coups. Et donc, l'attaque n'a même pas commencé, mais ils attendent qu'il y ait quelque chose de bon. Ça sent, c'est comme dans l'électricité, dans l'air, dans leur esprit. Alors, avant la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus, qui avait aimé les siens, qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Pendant le repas, alors que le diable avait déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon, de le livrer, Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains et qu'il était venu de Dieu, qui est son aller à Dieu. Alors déjà, on a beaucoup de choses à dire, mais Jean, il fait son propre introduction, parce que les événements qui suivent sont frappants, sont presque choquants. Dans le contexte culturel et social aussi. Alors, il remet les choses en place. Avant la Pâque, d'abord, bonne question à se poser. Revisons, qu'est-ce que c'est la Pâque? Pourquoi la Pâque? Pourquoi c'est tellement important ici, maintenant? Une belle image de Jésus, bien sûr. Jésus qui est la Pâque. C'est pour ça que nous avons eu, dès chapitre 1, quand Jean-Baptiste voit Jésus, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Il est l'accomplissement. Donc, il fallait qu'il soit crucifié ce jour même. Il n'y a pas d'autre possibilité. En accomplissement de tout ce qui a été dit, lui aussi en tant que la parole de Dieu, il est l'accomplissement de toutes les prophéties. Comme il dit en Apocalypse, l'esprit de la prophétie, c'est Jésus. Et donc, il est l'accomplissement. Il savait que c'était son heure. Il n'y avait pas beaucoup de temps. Et que, justement, il allait au ciel, mais il voulait montrer son amour, finalement. Il voulait montrer son amour envers les siens, ses disciples, d'une façon concrète, palpable, avant la crucifixion, qu'ils vont comprendre plus tard. Mais il a maintenant quelque chose à leur enseigner. Et donc, il les aima jusqu'au bout, jusqu'à ne gaspiller une seule seconde. Et nous voyons, il y a cette intimité entre lui et ses disciples. Certains ont utilisé ce petit passage pour dire, et je trouve personnellement que c'est un peu forcé, que ça parle seulement des élus de Dieu, et que Dieu les aime seulement, et puis pas les autres. Et c'est vrai que Dieu, il aime les siens, il aime ses enfants, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais dans le contexte, ça parle des disciples, c'est tout simplement Jésus et ses disciples, ce moment-là. Donc on peut utiliser plein d'autres passages pour parler de l'amour de Dieu envers ses enfants. Par exemple, vous voyez de quel amour le Père nous a tous aimés, qui nous a appelés ses enfants. Bon, mais ici, ce n'est pas tout à fait ça. Ici, on parle de ce moment précieux entre lui et ses disciples, un moment qui va nous enseigner aussi. Note que Judas est dans la salle, Jésus est au courant et savait que le Père avait remis toute autorité, toute chose en lui. C'est la même genre d'expression qu'on a à la fin de Matthieu, après sa résurrection, juste avant qu'il monte au ciel, et il dit ceci. Verset 18 de chapitre 28. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations. Donc, tout pouvoir a été donné. Aussi, c'est la même idée que nous avons en Philippiens 2, verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est cette même idée que tout lui a été donné. Et c'est pour ça justement que quand nous lisons la prophétie, c'est toujours dit au passé, parce que dans l'Esprit de Dieu, c'est accompli, avant même que ça arrive dans le monde physique. Tout a été donné. Il y a cette expression où quelqu'un a dit que le pouvoir tente à corrompre les gens et le pouvoir absolu corrompre absolument. Jésus, donc, qui avait tout pouvoir tout à fait différent. Notez ce qu'il a fait, verset 4, souleva cette table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il s'entoura, ensuite il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples, à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Ça, c'est tout pouvoir, mais dans les mains du Tout-Puissant. Ça, c'est ce qu'on appelle aussi l'humilité, ou, comme Jésus a dit lui-même, heureux sont les doux, car ils hériteront la terre. Ça, c'est la douceur biblique. La douceur n'est pas une espèce de mollesse, ou un esprit désintéressé, détaché, un peu comme l'étranger de Camus. C'est pas du tout ça, non. La douceur, c'est la puissance maîtrisée. Et c'est ça ce que nous voyons chez Jésus. Toute puissance, mais maîtrisée, utilisée parfaitement selon la volonté de Dieu. Un peu comme les chevaux de course, qui sont des animaux très puissants, mais qui ne font pas n'importe quoi, mais qui sont dirigés parfaitement vers un but commun. Et ça, c'est d'une petite image de la douceur dans la Bible, donc, que Jésus, ici, dans ces quelques versets, démontre parfaitement. Il prend les habits d'un serviteur. C'est pas comme il est tout nu, mais non, il enlève seulement ce qui est autour, sa vie plutôt comme un serviteur. Et en fait, cette idée de laver les pieds, c'est parce que les gens ne prenaient pas autant de bains que nous. Bon, c'est vrai que pour le peuple juif, il y avait beaucoup de bains rituels, surtout à Jérusalem, il y en avait partout, les Romains aussi. Mais ce n'est pas comme chez nous où on a tous de l'eau à la maison. Sachant que même avec les chemins, les voies romaines qui avaient quand même des pavés, il y avait beaucoup de poussière. Et c'était très très sale. Et donc on marche avec des sandales et les pieds deviennent vraiment sales. Normalement, pour une telle fête, ça serait le serviteur qui doit le faire. Ou dans une famille où il n'y a pas de serviteur, ça serait plutôt la responsabilité des enfants. Mais jamais le maître, jamais la personne d'honneur. Et c'est intéressant parce que, quelle était la grande dispute des disciples? Quelle était la conversation que Jésus devait interrompre le plus souvent? Voilà. Qui était le plus grand dans le royaume de Dieu? Et c'est devenu tellement embêtant que Jésus, un jour, il prend un petit enfant, il l'amène devant tout le monde. Il dit, voilà l'exemple. Ce qui est fascinant avec ce petit trois versets, là, c'est que nous voyons encore Jésus met fin à cette petite dispute. Qui est le plus grand? Le plus grand, c'est le serviteur de tous. Et il le montre. Il l'a dit plusieurs fois, mais maintenant, il le fait. Peut-être, justement, ça devait être un des disciples de le faire. Peut-être qu'il n'avait pas envie. Puis Jésus prenne les choses en main parce que il les aime jusqu'au bout. Pas pour les humilier, mais parce qu'il les aime jusqu'au bout et il le montre. Alors, ce qui me touche dans tout ceci, c'est que nous avons le secret pour être grand dans le royaume de Dieu. Et c'est génial parce que ça n'a rien à voir avec combien de livres on a fait, ou combien de choses ou de personnes on a, entre guillemets, converties, ou des choses qu'on a fait, des grands exploits. Non, c'est lui qui est le plus grand dans le royaume de Dieu et le serviteur de tous. Et donc ce qui est merveilleux, c'est que nous avons la clé pour être grand. Et il n'y a rien qui puisse nous empêcher. Toute personne dans cette pièce ici a la possibilité d'être le plus grand dans le royaume de Dieu. Et c'est à votre portée finalement. C'est Jésus qui nous le montre. Et c'est tout à fait au contraire de ce que pense le monde. Et c'est tellement choquant que nous avons verset 6. Il vint donc à Simon-Pierre qui lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laverais les pieds ?» Et Jésus répondit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras dans la suite. » Et Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds, parce que ça ne se fait pas. » Peut-être, lui, il se sent un peu coupable, en pensant, ah, bah, peut-être ça devait être moi, effectivement, et puis il voulait être peut-être plus vers la place d'honneur, et puis, oh là là, oh Seigneur, oh non, tu enlèves tes vêtements, oh non, pas moi, oh là là, non, Seigneur, tu peux pas. Et puis il le fait. Mais Jésus lui dit, mais tu ne sais pas ce que je fais maintenant, mais tu vas comprendre, ça va venir. Et c'est comme Pierre, il n'écoute même pas. Je crois que c'est souvent ça, ce problème. Il a déjà formulé sa réponse, même avant d'entendre. Car qu'est-ce qu'il dit? Non, jamais. Tu me laves les pieds. Jésus dit, si je ne te lave, tu n'as point de part avec moi. Et là, nous voyons la conversion tout de suite. Il dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Bon, là, il est parti. Et Jésus lui dit, celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver, sauf les pieds, mais est entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Il connaissait en effet celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Alors, une chose qui est fascinant. Il évoque donc le problème de Judas. N'oublions pas que Judas, en fait, il tenait la bourse. Et donc, il avait une certaine place, peut-être même une place d'honneur. C'est bien possible, parce que ce n'est pas n'importe qui tient la bourse. Or, Jésus, il savait toutes choses. Il suit après tout qui l'a choisi. Mais, si c'était le cas, il est certain qu'il a non seulement lavé les pieds de Judas aussi, certainement, il a lavé les pieds de Judas d'abord, et puis, peut-être passé à Pierre. Mais notez que Pierre était suffisamment honnête avec lui-même pour dire « arrête ». Et donc nous voyons dans la tête de Judas que les choses déjà n'étaient pas bien. Le texte ne dit pas qu'il trouvait bien que le maître lave ses pieds, mais nous voyons que c'est Pierre qui souvent parle pour tous. A été le premier à dire « arrête, tu ne peux pas me laver les pieds ». Mais Jésus qui connaît toutes choses l'a fait quand même. Et puis, Simon reçoit la leçon que il faut être lavé par Jésus. Et donc, il veut qu'il soit totalement purifié. Mais la leçon était spécifique. C'était pas n'importe quoi. C'était pas un lavage complet du corps. Jésus voulait montrer, d'une part, que dans la purification de nous tous qui entrons par la croix, Jésus-Christ est mort une seule fois pour toutes. Comme il est dit en Hébreux, chapitre 10, verset 10, « Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. » Ce sacrificateur qui se tient à son poste chaque jour pour faire le service et pour offrir souvent les mêmes sacrifices ne peuvent jamais ôter les péchés. Mais lui, après avoir présenté un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu. Et il entend désormais que ses ennemis deviennent son marchepied, mais verset 14, car par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité, ceux qui sont sanctifiés. Un seul sacrifice pour tout temps. Et c'est ça qu'il voulait montrer d'abord. Celui donc qui est lavé et pur. Et il est pur à ce sens-là. Il ne faut pas que Jésus soit crucifié plusieurs fois. Ça, c'est une aberration de tout ce que Jésus a fait. Parce que Jésus est Dieu, et il est homme. Et si le sang de Christ n'est pas puissant pour laver tout le péché une seule fois pour toutes, nous diminuons la puissance de Christ et de son sang. Encore nous parlons du sang de Dieu versé pour nous tous. Ça ne veut pas dire que après que nous sommes justifiés ou rendus justes par la foi, que nous devenions sans péché. Et l'apôtre Jean l'a dit justement en 1 Jean, verset 6 de chapitre 1, il est dit « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. » Notez-le bien, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Et là, il a parlé de marcher dans la vérité, de marcher dans la lumière. Purification. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et de nous purifier de toute injustice. Donc il est nécessaire de revenir donc à lui, car nous sommes faibles, nous sommes pécheurs, nous sommes justifiés, juste comme on n'a jamais péché aux yeux du Dieu le Père. mais nous sommes pécheurs aussi. Il est important, donc, de venir à lui, de confesser ses péchés. Mais ici, donc, Jésus parle de la puissance de la purification de son sang. Et notez-le bien que pour Judas, qui a reçu aussi le même traitement que les autres, il est passé par les mêmes rites du baptême, si vous voulez, que les autres, il reste en dehors. C'est-à-dire que on peut passer par n'importe quel rite, on peut, si vous voulez, on peut prendre le Saint-Seine et être complètement un fils du diable. On peut recevoir le baptême et être complètement éloigné de Dieu. Ce sont pas ces choses-là qui sauvent, mais c'est Christ qui sauve. Et nous voyons que Judas, finalement, il est comme ces gens que Jésus a décrits dans le sermon sur la montagne, sont parmi ceux qui ont dit « Seigneur, Seigneur, j'ai chassé des démons en ton nom, j'ai fait des prodiges en ton nom. » Finalement, il ne l'a pas connu. Il n'a pas connu, et voilà tout la clé. Connaître et d'avoir cette relation. Et donc, cette image qu'il a choisie est bien faite, parce qu'il y a contact humain, c'est intime. Ça part de cette relation. Il nous explique encore plus. Après leur avoir lavé les pieds et avoir pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez le maître et le seigneur. Et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le seigneur et le maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous aussi vous fassiez comme moi je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur et l'apôtre n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. L'explication qu'il nous donne, comme lui, le Maître, a fait, nous aussi, nous devons suivre aujourd'hui. Nous avons un autre système d'hygiène. Donc, laver les pieds les uns des autres n'aura pas forcément la même signification. Ça peut être même bizarre. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? Parce que c'est assez clair ce qu'il veut. Il ne cache rien. Il veut que ça soit impliqué. Et je trouve qu'il y a d'autres moyens, justement, de laver les pieds les uns des autres. Souvent, la chose qui est le plus difficile de donner est simplement son temps d'écouter et de prier avec quelqu'un. De nos jours où il faut qu'on soit ailleurs il y a 10 minutes, donner son temps devient un réel sacrifice. Ça montre l'amour que le monde n'a pas. Ou que le monde peut produire en contrefaçon payant, mais ce n'est pas la même chose. Aussi, laver les pieds les uns les autres peut être aussi des bonnes œuvres, tout simplement aider quelqu'un qui déménage, quelqu'un qui a besoin d'aide. Il y a plein de façons de le faire. Bon, il n'est pas ici ce soir, donc on peut parler de lui favorablement. Donc il y a Anton qui, justement, il a utilisé pas mal d'heures et des heures qu'il n'avait pas forcément pour réparer les PC dans l'église. Il a réparé beaucoup d'ordinateurs et il le fait bien. C'est un exemple. Enfin, et vous avez tous des dons. Tous. Des capacités que le Seigneur vous donne. Qu'est-ce qui nous manque? Souvent, c'est l'attention, Souvent, c'est de sensibilité de l'esprit. Parfois, c'est simplement une question de désobéissance. On sait ce qu'on doit faire et on ne le fait pas, tout simplement. Jésus dit qu'il y a une bénédiction. Et la bénédiction, c'est quand même le bonheur. C'est bien de le savoir. Et maintenant, nous le savons tous. Ah, mais que c'est mieux de le mettre en pratique. Mais attention, ça ne compte pas si on le fait contre cœur. Vous connaissez l'histoire. C'est un peu comme les enfants, il y a les deux enfants, il y a le petit enfant qui prend le jouet de l'autre et puis intervient les parents, tu donnes ce jouet à ton ami. Et puis il dit, bon, je fais juste parce que maman me l'a dit. Alors, il donne, c'est vrai, le jouet à son ami, mais c'est tout à fait contre-cœur. Et souvent, et c'est vrai, qu'on peut avoir ce même sentiment au fond de nous-mêmes. Vous connaissez le scénario. Vous êtes pressé et puis il y a le téléphone qui sonne. Et vous savez que la personne à l'autre bout de la file, c'est la dernière personne sur le monde à qui vous voulez parler, mais le Seigneur vous a averti, il faut que vous preniez cet appel, parce que le Seigneur veut que vous laviez le pied de cette personne. Et si vous le faites contre cœur, vous allez gaspiller la bénédiction pour vous et vous allez offenser un frère innocent, une sœur innocente. Mais si vous preniez les choses en main, si vous demandiez l'aide du Saint-Esprit, Seigneur, je sais que je suis un pécheur en ce moment, je sais que mes sentiments ne sont pas dignes, pardonne-moi, remplis-moi de ton amour. Alors là, il est fidèle et il peut à ce moment nous donner justement ce dont nous avons besoin pour prendre cet appel, pour laver les pieds les uns les autres. Alors ce n'est pas de vous tous que je dis. Je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous l'ai dit, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez que moi, je suis. En vérité, je vous le dis, qui reçoit celui que j'aurai envoyé, me reçoit. Et qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Jésus répète maintenant ce qu'il a dit concernant Judas. Et j'imagine maintenant ça commence à rentrer. En plus, il cite de l'Écriture, il cite un psaume. Et ce psaume, je crois que c'est psaume 41, oui c'est ça. Et le psaume 41, en fait, c'est un psaume qui est écrit par David lorsque Absalom, son propre fils, se rebellait contre lui. Mais ce petit passage qu'il prend, ça parle en fait de son conseiller, un de ses plus chers conseillers. En fait, il y a une phrase dans le récit que de consulter Ahithophel était comme chercher la conseil de Dieu. Et cet homme a tourné le dos brutalement contre David et s'est joint aux campagnes d'Absalom son fils. Et voilà ce que il écrit concernant ceci. Celui avec qui j'ai partagé mon pain, mon ami, s'est tourné contre moi. Et Jésus, par son autorité divine, nous montre que l'accomplissement de ceci, bien qu'il y avait une première accomplissement dans Ahithophel, il y a Judas qui l'accomplit parfaitement. Et il le dit pour qu'il soit au courant, mais aussi pour qu'après que ces choses arrivent, il réalise qu'il est celui qu'il est. Le « je suis » est bien voulu, donc. C'est la référence de Moïse à la buisson ardent quand Dieu se révèle en tant que je suis qui je suis. Autrement dit, je vous annonce avant les choses arrivent pour que vous réalisez que je suis Dieu. Et donc, sachant que je suis Dieu, donc c'est lui qui reçoit ce que j'envoie, donc vous, il me reçoit. Autrement dit, comme je suis dans une mission divine, je vous envoie aussi dans une mission divine. Eux aussi, ils vont avoir pas mal d'obstacles. Après avoir ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Non. Maintenant, nous voyons son côté humain. Il fut troublé en son esprit. Et fit cette déclaration. En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres et se demandèrent de qui il parlait. Un de ses disciples, celui que Jésus aimait, était couché à table près de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe et lui dit, « Demande qui est celui dont il parle. » Et ce disciple se pencha sur la poitrine de Jésus et dit, « Seigneur, qui est-ce ?» Alors, maintenant ça commence à rentrer, je pense. Et puis il le dit, après qu'il est troublé dans son esprit, peut-être même il a fait des grimaces ou quelque chose pour montrer justement à quel point il n'était pas pour faire semblant, mais c'était tellement profond que ça se voyait sur son visage. Et les disciples, maintenant, ils se regardent, mais comment ça? Nous venons de te célébrer en tant que le Messie et maintenant il y a quelqu'un qui va te trahir? Mais comment ça? Et ils se demandent les uns les autres, mais qu'est-ce que c'est? Et donc Pierre, qui voit que Jean est juste à côté de Jésus, il dit, mais vas-y, demande-lui, qu'est-ce? Alors faisons une petite parenthèse, parce que là nous voyons que Jean, il s'appelle, ou il se donne le nom, celui que Jésus aimait. Alors pourquoi? Et c'est intéressant, notez bien que, dans tous les autres évangiles, il n'est jamais appelé Jean le bien-aimé. Ni dans le livre des Actes, mais pas Jean le petit chouchou de Jésus. Alors que nous le voyons seulement dans son évangile. Alors, il est difficile de croire qu'il est tellement enflé d'orgueil qu'il s'appelle, il se donne ce nom comme il est aimé et tous les autres ne le sont pas. Parce que ça ne colle pas avec le reste de ce qu'il écrit. Alors, en lisant du début jusqu'à la fin, nous réalisons qu'il n'utilise, il n'emploie jamais son nom en référence de lui-même. Mais, au début, il parle de Jean en tant que Jean-Baptiste. Alors, c'est pourquoi on pense que c'est plutôt par humilité qu'il laisse Jean le nom. Mais qu'il n'a même pas le désir d'attirer l'attention sur lui-même. Il n'offre même pas son nom. Comme si la seule chose qui est digne de lui, c'est que Jésus l'aimait. Voilà la seule qualité que j'ai, que Jésus m'aime. Et donc, il donne son nom dans cette attitude-là. Alors, Simon-Pierre, toujours impétueux, très curieux. Je crois que tout le monde voulait justement demander, mais il est le seul qui a osé. Vas-y, Jean. Alors, Jésus lui répondit, c'est celui pour qui je tremperai le morceau et à qui je le donnerai. Il le trempa le morceau et le donna à Judas, fils de Simon Iscariote. Et dès que Judas eut reçu le morceau, Satan entra en lui. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. En effet, comme Judas tenait la bourse, quelques-uns pensaient que Jésus lui disait, « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête » ou « Donne quelque chose aux pauvres. » Jésus prit le morceau et sortit aussitôt. Faisait nuit. Ce que Jésus a dit en donnant le morceau à Judas était un signe d'honneur et de respect. de respect. En fait, les gens, à cette époque, et même aujourd'hui en Israël, ils mangent dans des petits plats, il y a des petits plats partout, un petit peu comme les tapas espagnols, mais il y a des pitas ou un pain, bah, ici c'est plutôt le pain sans levain, et donc ils trempent le pain et ils mangent ensemble, chacun partage dans ses petites repas, enfin des petites bols. Et il donne sans doute la meilleure portion à Judas, mais c'était vraiment la dernière chance pour Judas. Dès verset 2, nous avons appris que c'était l'idée de Satan semée dans la vie de Judas. Donc, avec ce verset, nous pouvons balayer cette idée que, en fait, c'était une idée noble, que seulement Judas voulait pousser le Seigneur à agir, à faire quelque chose. Non, verset 2 nous apprend que c'était le diable qui voulait le faire parce que il est le meurtrier. Et Judas, il avait quand même 3 ans de se tourner. Jésus l'a choisi, c'est sûr. Jésus a dit aussi, il faut que les Écritures soient accomplies. Mais notez-le bien, même pendant cette fête, 3 fois il parle et il donne cet avertissement. Ça donnait toute l'occasion à Judas, ce qui était nécessaire pour se tourner le dos contre cette idée de Satan et tomber sur son visage et pour se repentir. Il avait toute occasion. Même en lui tendant le morceau, c'était son dernière chance. Il pouvait à ce moment-là arrêter et dire non. Raison. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je suis en train de penser? Là, il est découvert. Jésus lui parle face à face. Il ne peut pas vous dire autre chose de ce qu'il dit. Judas le sait, personne d'autre n'est vraiment au courant. Il ne le soupçonne même pas. Il pense que cet homme va faire des bonnes œuvres après, parce que c'est lui qui tient la bourse. Il pense qu'il va chercher des vivres ou quelque chose. Tellement ils sont trompés de lui. Ainsi, nous voyons que quelqu'un peut avoir toutes les apparences de véritable ange et être un véritable diable. Mais Judas a accepté le morceau. Il a pris. Et ce n'est pas pour rien que le moment qu'il le prend est le moment que Satan entre en lui. Il l'a choisi. Oui, Jésus l'a choisi. Oui, il fallait que les Écritures soient accomplies, mais ça n'enlève en rien sa responsabilité. Puisque de sa propre volonté, personne ne l'a forcé. Il finit par prendre le morceau. Il accepte donc le rôle. Et ça, c'est pourquoi nous avons cette petite phrase à la fin du verset 30. Il faisait nuit. Bien sûr, il faisait nuit. Il mangeait le repas de la Pâque. C'est la nuit où ça se mange. Non, il faisait nuit parce que il y avait des ténèbres totales en lui. C'était le moment où le mal va faire son œuvre. Mais notez que ce n'est pas que Jésus a perdu la maîtrise. Même si Satan entre en Judas, Jésus l'ordonne. Peut-être il avait ses propres idées, mais Jésus dit, ok, d'accord, tu as accepté, alors va faire ce que tu vas faire. C'est Jésus le maître, c'est lui qui est Dieu et c'est lui qui ordonne maintenant Satan dans le corps de cet homme de faire ce qu'il a à faire. Car Jésus est le maître, il est Dieu. Et ainsi nous voyons que finalement, le pouvoir du diable est assez limité. Ce n'est pas comme disent les mormons que Jésus était le frère de Satan, un truc comme ça, comme si c'est le yin et le yang, où il y a un équilibre entre les deux. Non, Jésus est le fils du Dieu très haut. Il est à la fois Dieu et homme. Satan n'est qu'une créature. Et lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. » Notez que c'est encore au passé, dans un temps accompli, ce qui est typique de la prophétie. Il n'est pas encore accompli, si vous voulez, sa mission, sauf dans l'Esprit de Dieu, c'est fait. Et si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même. Et le glorifiera bientôt. On pense que c'est maintenant où il y a le repas qui n'est pas mis dans le livre de Jean, où il explique le repas du Seigneur, le pain, la vin. Verset 33, « Petits enfants, je suis encore pour peu de temps avec vous. Vous me chercherez. Comme j'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pourrez venir. À vous aussi, je le dis maintenant, et je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi vous aimez les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. » Et nous rejoignons exactement ce que nous avons vu avec les pieds. Le royaume de Dieu. Alors, Simon-Pierre lui dit, « Mais Seigneur, où vas-tu ? » On peut très bien comprendre ce qu'il pense en ce moment. Parce que... alors, attends Seigneur. Il y a quelques jours, on t'a acclamé le Messie. Tu étais victorieux pendant toute cette semaine, tu nous as montré ton grand savoir de la prophétie et tout. Et bon, il y avait ce truc avec la trahison, et maintenant, tu vas partir? Tu vas où exactement? Dans sa mentalité, il ne peut pas comprendre. Et donc Jésus, il essaie d'expliquer, il dit là où je vais, tu ne peux pas maintenant me suivre. Tu me suivras plus tard. Et Pierre, éventuellement, il l'a suivi. Lui aussi, qui est mort, une mort de martyr. Mais Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Maintenant, il pense que c'est une question de force, comme si Jésus dit, tu n'as pas la force pour le faire, ou tu vois, il remet le temps comme oui, je peux le faire, mais il relève le fait qu'il n'écoute pas. Il parle simplement de ce qu'il ressent, mais il n'écoute pas. Je donnerai ma vie pour toi, plein de promesses. Jésus dit, tu donneras ta vie pour moi? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera point que tu ne m'aies renié trois fois. Pierre, il ne disait rien de plus de ce que disaient les autres, en fait. Eux aussi, ils ont renié le Seigneur. Et rappelez, vous qui avez dans l'évangile selon Luc, Jésus dit, combien d'épées avez-vous ? En parlant des temps tempétueux qui vont venir après. Et il y en avait quelques-uns. Nous savons par la suite que un de ces épées appartenait à Pierre parce que c'est lui qui prend son épée et qui coupe l'oreille du garde, justement. Donc quand il disait « Je suis prêt à donner ma vie », il était sérieux. Il allait le faire. Bon, évidemment, il n'était pas un très bon soldat, tout simplement. Mais la volonté était là. Mais il n'écoutait pas. Et parce qu'il n'écoutait pas, et il voulait tout droit, et il s'appuyait sur ses propres points forts, sans s'arrêter et sans écouter, il se mettait en danger, et finalement, il se mettait dans la place terrible que nous connaissons plus tard, où il finit par renier le Seigneur. Pierre était un homme fort, il n'était pas lâche, pas du tout. C'était un gaillard qui était peut-être trop convaincu de ses propres points forts. Alors, on va terminer avec ceci. Mais qu'est-ce qu'on fait justement? Parce que souvent, ce sont nos points forts qui nous trompent. Et le diable le sait très bien. Parce qu'on ne pense pas qu'il y a un problème là. Et c'est là où on tombe. En Ésaïe 40, verset 28, nous lisons ceci. Ne l'as-tu pas reconnu? Ne l'as-tu pas entendu? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue, ni se lasse. Son intelligence est insondable. Donc il a toute puissance, toute intelligence. Il est le Créateur, il est éternel. Il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur à celui qui est au bout de ses ressources. Donc une force qu'il ne possède pas. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les adolescents, justement, ne sont pas connus pour ça. Ils sont connus pour leur force, pour leur ténacité. Les jeunes hommes trébuchent bel et bien. Encore, leur force leur font échec, parfois. Mais ceux qui espèrent, ou bien j'aime mieux la traduction qui dit, qui s'attendent sur l'Éternel, renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. La différence, c'est que Pierre réagissait. Il réagissait par ses propres forces. C'est pourquoi il est tombé. Il n'écoutait pas. Mais attention, ceux qui s'arrêtent, qui reconnaissent ses limites, qui s'arrêtent, qui espèrent en l'Éternel, mais qui attend et qui prie et qui attend que le Seigneur le remplisse, le dirige, celui-là reprend les ailes et reprend la force. Car il ne fait pas sa propre volonté. Le Seigneur ne va jamais nous aider à faire notre propre volonté. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais c'est pour sa volonté, pour faire son œuvre. Voilà l'espérance qu'on a. Il a toute la force, il a toute la puissance, il a toute l'intelligence. Il donne à ceux qui espèrent et qui s'attendent sur lui. Prions.